Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Gros podcast cette semaine avec Pierre-Marc Langevin, Benoît Saint-Pierre. Comment ça va?
Ça va super bien, mon Matt.
Salut.
Nouveau setup, on change toujours de place.
Oui, c'est ça. Même c'est... moi, je cherche des décors en bois.
On découvre.
On est un podcast nomade.
C'est ça. En même temps, on voyage pas trop loin, la galerie en bas. C'est...
La galerie en bas, le théâtre, Rouen.
Tout dans la même place, c'est tout après ça que c'est le bord du lac Fontbonne.
Tu Fontbonne?
Oui.
Fascinant.
Non, le Fontbonne est plus loin. Ouais, c'est plus ça, loin. Okay, ouais. Mais hey, gros podcast cette semaine, honnêtement. Très fier de pouvoir dire qu'on l'a reçu. Puis,
même, dernière minute. Je peux dire que c'est la deuxième fois que je reçois ce monsieur-là.
Quand même. Le karaté d'Alma.
Karaté d'Alma, Michel Barrette. Puis quelle entrevue facile à faire, hein?
Ouais, c'était. Ouais, mais en tout cas, j'espère que vous allez avoir autant de fun que nous autres, mais ouais, il y a des belles anecdotes, là.
Ouais, c'est vraiment. Mais c'est ça qui est fou, hein, parce qu'avec ce genre de personnes qui sont habituées de raconter des affaires, là, tu leur poses une mini question, puis ils parlent pendant 8 ans, là.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
C'était vraiment intéressant pour vous. Parce qu'on va moins parler, c'est ouais. Ça l'affaire.
Je pense qu'il y a le meilleur punch-out de l'histoire du podcast dans celui-là aussi.
L'histoire du podcast, un tabarnak, OK?
De l'histoire du podcast, tout podcast
de notre
confondu.
Podcast, OK, c'est
tout
ça?
Podcast
okay, tout podcast
confondu.
OK, tout, OK. Hein.
C'est mais, le meilleur punch-out que j'ai entendu.
Puis pour ça, bon, on va remercier Mathieu Larochelle, auteur des Escarres, qui nous a fait une belle passe à palette comme gestionnaire de salle, donc qui nous a booké ça comme un chef, puis qui book aussi des entrevues avec pour les paparapsis, le duo d'animateurs de l'école Paul Faré.
Ouais, vous allez entendre Michel Barrette souvent parler des jeunes dans le podcast et ils parlent des
paparapsis.
On a vraiment de la misère. Hey, je l'ai dit, paparapsis. Hey, Colin!
Essaye donc de dire CHSLD.
CHSLD.
Ok, c'est pas super.
J'ai plus tendance à dire CHSLD que paparapsis.
Suivez-les sur Facebook, les paparapsis. D'ailleurs, ils ont fait une entrevue avec Michel aussi, donc vous pourrez aller voir ça. Ça devrait sortir incessamment si c'est pas déjà fait.
Il devait faire 15 minutes puis il a fait une heure et demie.
C'est ça.
Nous autres, il a fait une bonne heure aussi.
Nous autres, il a fait une conquête rapidement, par exemple.
Ouais, on s'est fait surprendre par
le public,
le show, le spectacle.
C'était son spectacle ce soir-là qu'on a vu d'ailleurs. On a eu bien du fun pendant le spectacle. Donc, puis en tout cas, c'était vraiment cool. Le podcast, ceux qui étaient au show, ben, ils allaient avoir un beau complément, ça c'est sûr.
Yes, ça va y avoir du
fun.
Donc, on remercie nos partenaires. Ta communication.
Médiaté.
C'est ça. C'est bravo. Bravo les commanditaires. Puis, ben, merci à vous autres. Continuez de nous suivre. Puis, on vous lance des podcasts à tous les semaines.
Un commanditaire aussi pour cet épisode-là, Théâtre des Escarres.
Ouais,
on
évidemment.
Le dit et on va leur dire. Là, et...
Ouais, Théâtre des Escarres qui nous aide beaucoup. Puis, on aime ça leur rendre l'appareil.
Bonne écoute.
Appropriation culturelle.
J'ai dit, il est vraiment trop drôle pour moi. Quand je suis rentré, j'ai dit aux gens, j'ai dit, c'est la première fois que ça allait voir une deuxième partie. moins drôle que la première partie. Puis j'ai dit, c'est moi qui devais refaire sa première partie. Chris qui est drôle. Mm-hmm. Et ça a créé un doute, là, même pas idée sur le reste de ma carrière.
Ouais, plus jamais. Une machine,
il y a du ton,
ah non, là, il était clair. Il y a des, mettons qu'il y a de la relève, cassez-vous pas la tête.
Ah, puis des raconteurs dans le milieu de l'humour, comme toi, tu te fais depuis des années, Simon Leblanc, il ramène ça, dans le fond.
Exactement. Moi, ça va faire 40 ans l'an prochain. Puis il ramène ça, mais il ramène à sa manière. T'sais, on a tous notre manière. T'sais, ce que Jean-Marc fait, c'est ce que moi je fais. Ce que Philippe Bond fait, c'est ce qu'on fait tous comme raconteur. À notre manière aussi, mais si on s'en note. Dans le cas de Philippe Bond, ben, c'est son père, sa mère, sa grand-mère, un peu comme moi, rajoute les chars, rajoute le sexe de mon âge. Bon, on a une différence d'âge, c'est sûr. Mais lui, Simon Leblanc, c'est comme un... Chris, c'est comme Olivier Guimond sur l'acide.
Ouais.
Ça n'a pas de bon sens. Il est vraiment drôle. Vraiment.
Quelque chose de... C'est très organique comme type de comptage. Je sais pas trop comment décrire ça. Là.
Ah,
il a son style.
Ah, vraiment. Puis il travaille fort, puis ça paraît, puis...
Ah, il rate plusieurs spectacles en même temps.
Il rate plusieurs spectacles en même temps. Il rate devant trois personnes. Il loue un bar, genre, pour... puis il joue gratuit. C'est comme... un extraterrestre. Vraiment. Vraiment, vraiment. Retenez ce nom.
Ah oui.
Bien, bienvenue à Appropriation culturelle de podcast, Michel Barrette. Merci d'accepter l'invitation.
Vous savez que j'adore ça, moi.
Oui?
J'adore ça parce que ce qu'on fait sur scène, ça reste des numéros, OK? C'est-à-dire que ce que je raconte, c'est toujours tiré de choses que j'ai vécues, mais qui deviennent des numéros. Le prétexte de n'importe quel monologue, t'sais, moi j'ai l'impression que c'est comme un long monologue, mais il y a quand même des thèmes qui changent. Ça porte toujours d'un élément réel, vécu. Mais on en fait un numéro d'humour. Et ça, quelque part, c'est bien quand tu fais un show d'humour, mais en podcast, ce que j'aime, c'est que là, t'es là pour raconter la vérité. Moi, vous avez une affaire. J'en ai parlé aux jeunes hier, puis j'ai même appelé ma blonde tout de suite après. J'en ai parlé à mon technicien. J'ai dit, moi, la meilleure... Savez-vous, ça serait quoi la plus belle manière pour moi de finir ma carrière? De revenir sur scène sans spectacle. Je m'explique. Ce qu'on va faire là, vous allez me poser des questions. Ouais. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre la vérité. Je ne vous répondrai pas avec l'intention de faire rire à tout prix. Je vais vous répondre parce que mes réponses vont venir de mon vécu, c'est automatique, parce que tu sais, je ne peux pas vous répondre autrement. Moi, je rêve de monter sur scène avec une personne. Mettons que je serais ici, là, ce serait un de vous trois qui serait là. OK? Ce qu'on va faire là. Puis les gens viendraient assister à ça. Vous me posez des questions. Les gens pourraient poser des questions avant le spectacle, écrire des questions. Ouais. Mm-hmm. On choisirait les questions pour ne pas être redondant, Puis après ça, je laisserais ça dans les mains de celui qui m'interviewerait et on parlerait de la vie, du passé, du début de carrière, de la jeunesse, de l'adolescence, du suicide, de n'importe quoi. Et ça, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir à la vérité. T'sais.
C'est pareil comme une bibliographie live avec ton auteur qui est là pour te donner les questions puis te feeder.
Exactement, mais je voudrais pas que ce soit quelqu'un qui me suive. J'ai fait dans le temps de Noël...
Ce serait différent à tous les shows, dans le fond.
Oui, exactement. Il n'y a pas un show qui serait pareil parce qu'il n'y a pas une question qui serait... Mm-hmm. Il y a des questions qui reviendraient certainement. Mais je pense à Luc Chenet, mon ami, avec qui on a fait un spécial pour Noël qui s'appelait « Mes drôles de Noël » qui ont été...
En show virtuel.
Mm-hmm. Ça a très bien fonctionné. Mais ce qu'on avait fait d'abord, c'est se rencontrer pour prévoir des sujets. Et j'ai dit, si jamais je dérape et que j'ai l'air à devenir plate, ben relance-moi sur les affaires. Je racontais pas tout. Je dis, écoute, mon grand-père, exemple, parce que c'était sur Noël, j'ai dit, non, je peux peut-être en parler pendant 10 minutes. Mais finalement, j'en ai parlé pendant 2 heures et 15.
C'est ce qui arrive.
Mais je voudrais pas l'avoir à tous les soirs parce que là, je retomberai encore dans le même pattern d'un spectacle. Parce que ce que je fais ce soir, c'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que je vais faire demain, avec quelques différences près. Mais là, ça serait de me surprendre moi-même et que le public, par leurs questions, et l'animateur ou l'animatrice par leurs questions me surprendrait. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre là-dedans? T'sais, les jeunes, ils avaient 15 ans, ils voulaient savoir comment j'ai commencé ma carrière. C'est normal parce que si tu as l'intention de faire carrière en communication ou en humour, ben tu veux savoir. T'sais. Alors moi, j'aime ça pouvoir raconter ça puis de raconter des parcours qui sont pas standards. Ils m'ont demandé, les jeunes, avez-vous fait l'École nationale de l'humour? Un, ça n'existait pas, puis deux, ça existait, je ne l'aurais pas fait. J'ai jamais suivi de cours de théâtre, pourtant j'ai joué dans plein de films et des séries et d'affaires comme ça. Bien, il y a mille manières d'arriver au but. Ouais. Moi, j'ai dit, j'ai boxé dans la ruelle. T'sais, moi, je me suis battu dans la ruelle. Alors, j'ai appris, quand tu manges 12 volets, tu comprends pourquoi il faut que tu lèves les poings pour protéger ton nez. Ouais. Alors qu'à l'école de boxe, je l'aurais appris, mettons, en quelques jours. Alors, j'ai préféré apprendre dans la ruelle, même si j'ai mangé plus de coups, parce qu'une fois que j'ai compris.
Parce que ça a commencé, c'est un peu un hasard, là. Ta carrière, c'est l'impro, c'est après ça la scène, lundi, les auditions qui sont arrivées.
Ma carrière, c'est une tentative de suicide.
C'est une belle image.
Ben, c'est une belle image, mais le pire, c'est que c'est même pas une image.
C'est pas... OK.
Non, j'ai vraiment tenté de me suicider à l'âge de 25 ans suite à une peine d'amour.
OK.
D'une fille que j'adorais et qui me connaissait depuis que j'avais 17 ans et qu'on en avait 15 parce qu'on sortait ensemble. Puis on était rendus 7 ans plus tard. Et j'avais changé. Le jeune fou qu'elle avait connu qui partait sur le pouce en Californie ou avec son vieux Volkswagen ou sa moto, n'importe quoi. Il était rendu directeur de crédit dans une caisse. Elle avait commencé à sortir avec Cat Stevens, puis elle était poignée avec le gérant de la caisse. Et quand elle m'a laissé, j'ai eu une peine d'amour, j'ai tenté de me suicider, je m'en suis sorti heureusement grâce à mon père, bon, blablabla. Et j'étais face au mur, 8e sous-sol, et il a fallu que je me retrouve, et je me suis retrouvé en descendant la cour du Royal à Alma, en entendant un match d'impro dans un café, qui s'appelait le Café de la Rose, où je suis entré là, et que j'ai vu sur la patinoire des gens qui me ressemblaient. J'ai vu des gens qui ressemblaient à ce que j'étais avant. Et heureusement, j'ai demandé à Marcel Pomerleau, qui était le capitaine de l'équipe, si je pouvais porter un chandail. J'en ai porté un, je suis monté sur scène, et la carrière commence là. C'est pour ça que j'ai souvent dit que ma carrière allait faire 40 ans en 2023, mais c'est pas vrai parce que j'ai fait de l'impro. Je suis monté sur scène d'abord en 2022. D'abord 2022, en 82. Et c'est vraiment là que ça commence. Parce que j'ai laissé mon travail, j'ai laissé la caisse, j'ai tout laissé pour faire de l'impro qui m'amènera au théâtre et le théâtre qui m'amènera à l'humour et qui m'amènera à m'être assis ici puis répondre aux questions.
C'est impressionnant. C'est vrai que l'impro, c'est souvent la... Ben, pour moi aussi, ça a été ça un peu au secondaire, l'espèce de bouée de dire ouais. « Enfin, je me trouve comme... » Tu sais, au secondaire, t'es comme mêlé dans tout. Mais là, tu découvres « Ah, OK, je suis capable de faire rire. » Puis il y a du monde qui m'aime bien parce que je suis drôle.
Merci. Je suis capable de faire rire. Les gens m'aiment bien parce que je suis drôle. Moi, avant même l'impro, tu vois, la personne qu'elle avait connue, que ma blonde avait connue quand j'avais 17 ans, c'était le gars qui est passé d'introverti total. Tu sais, moi, j'étais... tu sais, moi, à 12, 13, 14, 15 ans, j'étais enfermé dans le grenier d'un garde-robe, dans la salle de bain. J'avais pas d'amis, je voulais rien savoir. Je dessinais, je faisais des choses à coller, je disais des bandes dessinées, puis tu voulais rien savoir. Et quand j'ai commencé à raconter, parce que mon grand-père est un conteur, quand j'ai commencé à raconter à mes amis qu'est-ce que j'avais fait durant le week-end, puis que les gens riaient, et que les filles riaient. Bon, ben là.
C'est nice.
Ça change tout chez un adolescent, et c'est resté. Et c'est ce qui fait. J'ai souvent. Récemment, ma femme m'a demandé de résumer ma relation avec celle que j'ai aimée quand j'étais jeune. Et j'ai dit elle m'a aimé parce que je la faisais rire, elle m'a laissé parce que je la rendais triste. Ça explique exactement notre relation. Je pense que cette fille-là, elle m'a trouvé drôle. Elle a trouvé que j'étais un personnage qu'elle trouvait sûrement spécial, assez pour tomber d'amour avec moi. Puis quand je suis devenu quelqu'un d'autre, le gars de la caisse, je la trouvais triste. Je la rendais triste, puis elle est partie. Alors, si ça peut résumer en une phrase, c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant, ben, je m'organise pour pas rendre personne triste. Que ce soit ma blonde, mes enfants ou le public. Ça disait monte sur scène, fais-nous rire. Fais-nous passer un bon moment.
Puis dans le temps d'une pandémie, ramener un show, parce que ce show-là a été créé carrément on fly.
Parce qu'il est né. Tu sais, le show commençait. Quand on commence à écrire un show, on a différentes manières de le faire. Il y a des gens qui écrivent, qui vérifient les textes, puis qu'après ça, ils rodent à partir de ces textes-là, puis ils changent. Bon,
Louis-José, mettons.
Louis-José, c'est l'autre extrait. Louis-José, s'il met la main sur la chaise, parce qu'il a répété 100 fois qu'à ce moment-là, il allait mettre la main sur la chaise. Moi, je viens de l'impro. Lui-ci, je suis sûr qu'il en a fait, mais je suis pas capable de travailler comme ça. Je suis pas capable. Moi, si vous me dites ce soir, monte sur scène, mais tu es obligé de dire n'importe quoi d'autre que ce que tu as dit hier, pourtant c'est le même show. Go! Je vais y aller tout de suite, m'en dire n'importe quoi d'autre. Parce que c'est ça que j'aime. Alors, moi, ça passe aussi par l'impro, c'est-à-dire que j'entre sur scène au début, j'essaie des affaires, je suis entouré quand même de gens qui me connaissent, et, entre autres Luc Sonnet, c'est joint à ça, Jeff Boudreau récemment, après ça, Dominique Sillon de Dominique et Martin, Louis-Philippe Rivard, le writer, le chum de José Boudreau, qui me connaissent depuis toujours. Hey, parle-nous donc de ça. Hey, ça serait facile à ça de compter l'affaire de ton grand-père. Ouais, alors, je me mets en danger. Je monte sur scène, puis j'y m'essaye. Après, lentement, le show prend forme, parce que ce qui marche, on regarde. Ce qui marche moins, on l'enlève, mais il faut le remplacer. Parce qu'il y a une durée minimum, il ne peut pas être 15 minutes sur scène, les gens ont payé. Fait qu'il y a des soirs au début d'un rodage où il peut y avoir un 15 minutes qui est moins drôle, tu sais, puis qui éventuellement seront remplacés. Et durant la pandémie, j'étais en plein rodage, j'étais en plein SRE. Paf, on m'arrête. Fait que j'ai pas pu vérifier, j'ai pas pu continuer. Petit ma blonde, elle aime bien entendre mes histoires, mais à un moment donné, c'est assez. Ce qui fait que là, c'est drôle parce que je débarque avec mon show. Il y aura jamais de première, il y aura jamais de lancement de show-là. J'ai fait ça deux fois déjà. J'ai fait ça une fois, faire un show, puis à la fin de la tournée, j'ai invité les journalistes pour la dernière. Puis j'ai dit, j'espère que vous allez haïr ça, vous allez l'écrire, je m'en fous, parce que il est vendu. Fait que je me fais confiance en même temps, puis je fais confiance aux gens. Ce qui fait que... Parce que ceux qui ont vu le show à Val-d'Or, mettons, au mois de décembre, demain, je vais être à Val-d'Or, ils vont voir un show différent. Je ne sais pas en quoi, parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai dit à Val-d'Or au mois de décembre, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'ai dit que je ne dis plus, puis il y a d'autres choses que je vais dire peut-être autrement.
Ouais.
Fait que ça évolue, le show, ça s'écrit sur la route. Et le dernier show sera toujours différent de la veille et surtout du premier.
Puis là, on revient, justement, on parlait de podcast. T'avais aimé ton expérience, je pense, à Sous-Écoute. Ah. Puis t'as pas le goût, de justement, de prendre ce concept-là puis de faire un podcast?
Mais ce qu'il disait tantôt, ça s'appliquerait bien pour le podcast, ouais, là, justement. Là, tu sais, comme une petite salle comme le bordel. T'as des invités très rares qui viennent comme discuter avec toi.
Je pourrais l'enregistrer, puis après...
Mais c'est parce que j'ai besoin... Je pourrais le faire, mais mon problème... C'est que si je le fais, mettons quand j'ai fait Mike Ward, d'abord,
ouais.
Moi, je connaissais rien là-dedans, les podcasts. Moi, je suis arrivé là,
ouais.
j'ai vu une gang de flow, là, une vingtaine d'années, j'ai dit, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait, ça, de vieux, tu sais. Puis là, je doutais, pourquoi Mike m'a invité, hein? Donc, je ne suis pas cette génération-là pendant tout. Mais je ne savais pas, moi, que les gens regardaient ça.
Ouais.
J'ai dit, de toute façon, personne ne va voir ça. C'est ça qu'il faisait ça pour son trip à lui, tu sais. J'ai raconté des affaires que j'aurais normalement pas raconté. J'ai volé le camion de la commission scolaire, ça, des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens. Puis après, les flous, hey, vieux délinquant. Après ça, partout en province, hey, c'était bon, Mike Ward. Vous avez écouté ça où? Ben, Mike Ward, je sais pas quoi. Mais pour savoir que tout le monde avait écouté ça, ça c'est ça, sur écoute.
Sous-écoute, oui. Sous-écoute,
sur
YouTube,
j'aimais pas ça.
Spotify.
Mais tout le monde a vu ça. Mais ça m'a prouvé que j'avais le droit de raconter des choses qui n'ont pas de mots du bon sens, de ne pas me censurer. Et j'ai fait ça à quelques reprises depuis ce temps-là. Mais je préférais le faire en tournée que de le faire une seule fois. C'est-à-dire, mettons, au lieu de dire, ben, je vais faire un podcast que je vais diffuser, puis je vais rester chez nous, moi, j'aime mieux rêver de le faire partout, d'aller voir les gens.
Je pense que ça serait possible d'avoir un truc. Nous, on est mobile, okay. on se déplace, on vient ici, on a un studio chez moi. Ben, studio, c'est un grand mot, mais on va avoir un studio. Mais je pense que ça serait possible de dire chaque spectacle est unique, puis tu es capable de... le donner à tout le monde. Fait que ça fait un peu ta bibliographie tout au long de...
Ça fait
de...
ta publicité.
Mais comment
aussi,
ça fonctionnerait? C'est-à-dire que soir après soir...
Tu pourrais enregistrer, dans le fond, tout le spectacle que tu fais avec ton auteur qui peut être différent.
Ton texte, sa console, il peut l'enregistrer de toute façon. Quand
puis
tu
à la fin,
shows,
tu fais un montage, ça devient un show.
Soit ouais, tu chaque spectacle devient un show, ben c'est une coupure de plein.
Le problème, c'est que si j'ai la même question... Mettons que je fais le tour de la région.
Ouais, ouais.
Puis que ce soir, on me pose une question, puis on me repose la même demain. Ben là, on a un problème, tu sais.
Ben peut-être qu'en deux heures de show, tu peux avoir une demi-heure de podcast par endroit. Fait que comme ça, tu peux faire ton tri, là. Tu peux avoir un monteur qui va faire ça, puis dans le fond, garder les questions. Tu sais, je pense que c'est un peu comme
c'est de dire, c'est qu'on va l'organiser pour toi.
Ce que je retiens, par contre, c'est que là où ça serait possible, mettons je fais le tour de province, puis qu'on enregistre chacun des rencontres avec
des
publics,
ouais.
Mais que tout ça est filmé, à la fin de ça, il pourrait y avoir un montage de fait qui, lui, pourrait être soit diffusé ou vendu ou je sais pas quoi, tu sais.
Ouais.
Ça serait, mettons, les meilleurs. Mettons que...
Le meilleur de chaque place.
Le meilleur de chaque. Si, mettons, j'ai répondu à comment tu commençais ta carrière à ça arrive du jour. Mais que je dis, la meilleure réaction ou la meilleure contre-questionnement, c'est là que ça s'est passé, ben tu le gardes.
Je suis convaincu qu'avec une équipe, qui connaît ses affaires, autant en son, vidéo, puis avoir un monteur, tu es capable d'enregistrer, exemple, 20 rencontres dans 20 villes différentes, puis tu donnes le stock, fais-moi 20 épisodes d'une demi-heure. Je pense que c'est en masse possible. Surtout si tu discutes pendant 3 heures ou 2 heures devant le public. Là, je pense que c'est entièrement possible.
Parce que le rêve, c'est ça. C'est que si je suis 2 heures, mettons, 2 heures, c'est un peu long.
Ouais.
J'ai déjà fait des shows de 2 heures, puis je voyais les gens qui commençaient à regarder l'heure parce que je vais vous raconter juste Jean-Marc, mon ami Jean-Marc. Parent. À un moment donné, j'étais à Trois-Rivières. Je vois sur la marquise du théâtre Jean-Marc Parent. J'entre dans le théâtre après-midi, il est là avec sa gang. Hey Michel, tu viendras pas voir mon show. Tu dis tout le temps que tu venais le voir, puis tu viens jamais le voir. Je prends toutes mes cartes de crédit. Je dis, tiens, Jean-Marc, tu me donneras ça après le show. Je suis obligé de venir le voir. Regarde, t'as mon permis de conduire, t'as ma carte de crédit, ma carte de guichet, t'as ma carte d'assurance maladie. Je suis obligé de voir le show. Je suis venu voir le show. Et là, maintenant, le show commence à 8 heures. C'est bon, c'est drôle, c'est Jean-Marc. Alors, à 10 heures, applaudissements, bravo, merci. Je me lève, je prends ma veste. La madame a dit, vous partez? Mais oui, madame. Elle dit, vous restez pas pour la deuxième partie? Comment la deuxième partie? Il est 10 heures, madame. Ben non, mais c'est rien que la première partie. Il venait de faire 2 heures. En track, un autre 2 heures. Écoute, physiquement, j'étais plus capable. Je riais encore, mais j'avais mal. J'ai dit, là, c'est assez, là. Puis, tu sais, il me disait, Jean-Marc, mais j'ai pas dit, mais tu gaspilles un show. Parce que c'en est deux, ça. Ah, deux heures. Ah, garde-en oui. un, tu le feras la prochaine fois. Mais, tu sais, ça, c'est Jean-Marc. Mais.
L'heure JMP qui finissait jamais à l'heure.
Exactement. Alors, moi, je pense que je ferais 1h30 là, de rencontre avec les gens. Puis la seule chose que je m'assurerais, c'est que le dernier 10 minutes, mettons, soit toujours le même pour m'assurer qu'ils sortent au moins sur un punch.
Ouais.
Tu sais, je voudrais pas juste finir par une... Mettons, si le dernier sujet est moins hot, puis qu'ils font... Tu sais, c'est comme la dernière toune d'un album, si elle est plate, tu vas rester sur l'impression que l'album est plate.
Ouais.
Fait que je garderais juste un dernier punch de fin, peut-être un monologue, je sais pas quoi, pour que là, les gens rient, puis qu'ils fassent... Hey, on a ri, c'est intéressant, on a appris des affaires, puis...
Ouais, c'est vrai, si vous écoutez, même Mike, il fait comment, je finirais ça là, mais c'est pas assez drôle, on continue. Ouais,
ben, il fait ça aussi, hein?
Ouais. Il cherche le punch.
Je trouve ça drôle, parce que je lisais un peu dans la revue de presse de ton spectacle, quand tu l'as sorti, que c'était un peu ton dernier avant la retraite, mais ce que je sens de Michel Barrette, c'est qu'il n'a pas le goût de prendre sa retraite, ben, il a le goût de...
Ouais, c'est... La retraite, c'est-à-dire que je réécrirai pas d'autres spectacles. Et ces rencontres-là, comme ce qu'on fait aujourd'hui, me donnent le goût de remonter sur scène différemment.
C'est ça.
Parce que quand... Mais ça, c'est à cause de Mike White, à cause d'une autre gang à Valleyfield, que ça s'appelait...
Pas de temps à perdre?
Pas de temps à perdre, c'est ça. Ouais. Où je suis débarqué là, puis le gars, il m'a dit... le jeune, assez pépé, il m'a dit... « Veux-tu voir les questions? » Jamais! Non, tout le monde des questions, vas-y, décolle.
Ah, puis il est bon, son show.
Ouais, il est bon, puis il y avait un public, tu sais, peut-être une vingtaine de personnes. Puis ça, j'ai besoin de ça aussi, à quelque part, parce que je suis habitué de faire de la scène, puis je suis habitué de compter. Mais là, j'en ai un, vous êtes trois, tu sais, au moins. C'est, pas, ouais, c'est moins pire que tout seul, tu sais.
Sa vie après, c'est ça, ça se promène, puis il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure. Le monde, ils peuvent le regarder quand ils veulent. Fait qu'ils vivent Michel Barrette quand ils veulent dans leur char, tu sais.
Comme là, ça va vivre comment, ça? Ils vont le voir quand, où?
Ça va être sur YouTube, ça va être sur Spotify.
Sur les plateformes de podcast.
Balado diffusion.
Balado, Spotify, iHeartRadio et autres.
Le téléphone, dans le fond, principalement.
C'est le média local, médiaté télé aussi, qui est un média.
C'est le fun, puis ça prouve que il y a une ouverture. C'est-à-dire que si, comme je vous ai dit, je contrôle ce que je fais en spectacle parce que ça reste un show. Je sais ce que je vais dire, je sais quand ça commence, quand ça finit. Alors que quand je parle dans la vie, je me censure pas. Puis j'ai pas l'intention de le faire non plus. Puis c'est le fun parce que de savoir que les gens vont voir, hein, ils vont dire, on connaît pas ce Barrette-là. Si on le connaît, mais s'il est pas en train de faire un monologue, il est pas en train d'animer un show de TV, il est pas en... Non, ça c'est... Tu sais, souvent les gens me disent, ça c'est un beau compliment, on avait l'impression que tu étais dans notre salon quand on a vu ton show. Ça c'est un beau compliment parce que ça montre que je suis naturel sur scène, puis bon. Mais je peux pas être encore... je peux pas être plus naturel que ce que je suis là, tu sais.
Ouais.
Ma calotte. Puis...
Ouais, mais c'est la beauté du médium, du podcast aussi. C'est des longues discussions qui sont pas trop scriptées, en fait, qui sont zéro scriptées dans notre cas.
Oui, dans notre cas. Mais c'est juste du naturel. C'est de jouer avec le médium complètement, puis de l'utiliser comme... Tu sais, il n'y a pas les règles radiophoniques, il n'y a pas les règles de télédiffusion. Ben, il y a certaines règles, mais je veux dire, si nous, c'est vraiment improvisé, là, on se renseigne sur notre invité, on l'invite, puis on discute pendant une heure. Mais tu sais, ça pourrait être une format une demi-heure, ça pourrait être une heure et demie, tu sais. Mais c'est nous qui a décidé de mettre ce format-là. Puis je pense que c'est ça qui est beau du podcast, c'est que tu peux mettre ça, ton contenu à ta main.
Ce que ça te tente de faire.
Exactement. Il y avait les... comment ça s'appelle, ça? En anglais, c'est les classes masterclass.
Oui, masterclass.
Tu sais, les masterclass où il rencontre Robert De Niro, mettons, là. Il lui parle il pose des questions sur sa carrière, sur le cinéma, sur où s'en va l'art. Mais c'est un peu ça, tu sais. C'était déjà une forme de podcast. Parce que...
C'est vrai.
Parce que t'es obligé de parler d'autre chose que... Tiens, puis en plus, c'est que ça nous permet de parler de n'importe quoi.
Sujet. Oui, parce que je t'ai quand même fait beaucoup de télé, mais j'ai pas l'impression qu'en télé, t'avais cette même liberté-là.
Non.
Non, c'est ça.
On n'a pas de liberté en télé. Tu sais, je vois Jean-Marc qui va rentrer cet automne avec son show.
Oui, hein?
Comme le retour de JMP.
Ah ouais.
Il va se lâcher lousse. Mais il va sortir juste dans un cadre télévisé.
Oui,
clairement. De télévision.
Il n'y aura pas la même liberté qu'à TQS dans le temps.
Non, il ne pourra pas. Il aura beau dire, il ne pourra pas sauter l'heure, puis il ne pourra pas.
Ça va être tough, en tout cas.
Ça va être tough. Puis en plus, je pense que les gens acceptent, sur un podcast, d'entendre des choses C'est-à-dire qu'il si, y a des choses que je dirais dans, que je vous dirais à vous que je ne pourrais pas dire sur scène. Parce qu'il y a une convention qui ferait comme... sur scène, j'entends dans un spectacle.
Ouais. Mm-hmm.
Parce qu'il ferait peut-être un peu, là. Dans un spectacle, on s'attend à avoir une affaire qui commence, un milieu, puis une fin, un punch, on passe à un autre
milieu. C'est ça.
Alors que ça, on n'a pas besoin de puncher.
Mais non.
Non, effectivement.
On a juste besoin d'être intéressant.
Non, c'est comme c'est quasiment un brainstorm en ce moment, là. Tu brainstorm le nouveau projet, prochain projet. Bien privilégié.
C'est ça.
On fait partie de l'équipe de production.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai le goût de t'amener sur un projet de télé, justement, que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, Kilomètre-heure.
Kilomètre-heure, là, on a fait 156 épisodes.
Ouais.
Moi, à l'époque, j'en avais vu, au début, je les ai vus, parce que t'es curieux de voir ce que ça donne, mais ça fait 20 ans de ça. Et je l'ai redécouvert grâce à la prise 2. Et
fou.
Je capote. C'est bon, c'est drôle, c'est même actuel. Il y a des sujets traités.
Les personnages sont merveilleux.
Les personnages sont formidables. Tite-Laine, puis Jean-Louis, puis Sylvie, puis Germain, puis mes enfants. C'était vraiment, je comprends le succès de Kilomètre Heure maintenant que je le vois. Puis comme ça longtemps, je me souviens pas. L'émission commence, j'ai aucune idée. Aucune idée qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que l'autre va dire. Je ris comme un fou. Puis je vois des fois, je vois même des sujets traités dans Kilomètre Heure qu'on pourrait plus aujourd'hui.
L'autre jour,
il y avait le harcèlement sexuel au travail. Il y avait, comment ça s'appelait, la patronne?
Jean-Louis.
En tout cas, l'excellente comédienne qui jouait à la patronne, elle rentre au bureau, puis Jean-Louis est penché. Elle dit, ouais, il y a des belles petites fesses après ça. Essaye de passer ça à tes vases, soir.
Non, ouais, c'est...
Fais l'inverse, mettons, ça aurait été lui qui aurait dit ça de la fille.
Ah, ouais. Ton personnage, Denis, là-dedans...
Ah, chaud total, quoi, j'ai tout le monde, mais... Je me souvenais pas, j'avais vu tant de filles, tant de belles filles.
156 épisodes en 156...
C'est toi qui écrivais cette série-là? Ou...
Non, mais c'est né d'un projet d'André Dubois, l'ancien cynique, avec Martin Forget et Jean-François Penneau, deux auteurs, ils m'ont rejoint. Ils ont dit, Michel, on a pensé à quelque chose. On voudrait créer une série à partir de... Mais ils ont dit de mon personnage. Michel Barrette, tu sais, c'était pas Michel Barrette, monsieur, mais tu sais, le gars de char, l'homme à femme, tatata. Ce que j'étais il y a 20 ans, c'était carrément ça. Mm-hmm. Ce que j'étais dans vie, mais ils ont grossi l'image. Mm-hmm. Puis ils ont dit, t'aurais un Gildor Rouen, jouerait ton meilleur ami, qui devient un peu ce que Marcel, mon meilleur ami dans vie, est. Pourtant, Marcel n'est pas mécanicien, mais le même rapport, tu sais. Parce que mon chum a tout le temps travaillé à l'usine. Moi, j'ai eu une job différente. Tu sais, je dis, je fais pas à l'usine.
Communication,
nana. Alors, mm-hmm. C'est un peu le rapport entre Denis et Germain, tu sais. Alors, ils m'ont proposé ça. Moi, un peu naïvement, je me dis, tant mieux. On a embarqué là-dedans. On a eu du fun pendant toutes ces années-là. Ça a duré, je pense, 8 ans. Et maintenant que je vois le produit fini, je fais comme... Je comprends pourquoi. Un, le monde aimait ça. Puis deux, il y a des gens de votre âge qui me disent que... Ils m'ont connu grâce à ça.
Ouais,
pour qui la référence, c'est ça.
C'est moi. Vois? C'est ça. Ben, tu sais, on te voyait dans les galas, tu sais, dans les affaires. Juste pour la croisière s'amuse.
Puis il a tremblé aussi, mais... qui était quand même assez...
Ouais, mais Michel Barrette, j'ai beaucoup, beaucoup plus écouté dans Kilomètre Heure à ce moment-là. J'avais quoi, peut-être 10 ans, 12 ans?
Ouais. Et ça faisait aussi... T'as nommé mon personnage, il a tremblé. Ça faisait aussi une coupure.
Ouais.
Avec un personnage qui était bonne pour moi, tu sais. Parce que je voulais pas mourir de le bonhomme. Ben ça, mm-hmm. Déjà, comme on voit jouer autre chose. Puis c'était aussi une série qui était dans la vérité. C'est-à-dire qu'on jouait pas... C'est dur à dire.
C'est sitcom, mais pas tant, tu sais.
Ouais.
C'est des vraies personnes de la
vie.
Des
vrais personnages. Tu sais, ma fille, tu sais...
Marie-Lise Bourque, que j'ai découvert là aussi.
Ben oui, Marie-Lise Bourque, qui a jamais suivi de cours de théâtre de sa vie.
Hein?
Non, Marie-Lise Bourque, elle a participé à un concours à Ouattatata ou je sais pas quoi,
okay.
Comme étudiante, figurer dans... Comme être figurante dans je sais pas quoi. Elle s'est ramassée sur le plateau, puis il y a quelqu'un qui fait... Oui, elle est bonne, elle.
Ouais.
Je sais pas, puis... Elle est devenue comédienne comme ça.
À la vrac,
par puis... hasard, exactement. Un hasard qui fait qu'on a découvert une formidable actrice. Elle est bonne. T'sais.
Combien de fois dans ta vie tu peux te faire dire une petite frette, mon Denis?
Ah oui, demande à Gildor. Quand on joue à Gildor, puis tout ça, tu m'as dit.
Ah
oui,
encore?
Encore. Un petit trait de ton Denis. Si j'avais pris une bière à toutes les fois qu'il m'en a proposé une, là, mon foie aurait explosé.
Je sais pas à quel point cette phrase-là est tellement intégrée. J'ai l'impression que le monde la dise puis qu'elle pense même plus à kilomètre-heure. C'est tellement comme...
C'est rendu dans la culture québécoise.
Ben, quand on dit parler des vraies affaires, on vous donne un exemple de monde qui allume pas. Okay. Non, mais vous allez dire, ben oui, quand on tournait kilomètre-heure et que tout le monde, d'abord, à chaque épisode, une certaine année, on s'est dit qu'il dort, puis moi, à un moment donné, Molson ou Labatt vont nous appeler pour dire, hey, t'as si peu. Pour dire, mettons, alors, ce qu'on a fait en studio, on a tourné deux commerciaux. On avait le décor, on avait tout. On a tourné deux commerciaux. Oh. Un pour Molson, un pour Labatt. Je rentrais, mettons, Gildon me disait, une petite frette, mon Denis? Ah oui. Hey, Germain, c'est quoi juste une petite frette? Alors, il ouvrait le réfrigérateur, il sortait, mettons, une Molson Dry.
Ouais.
Ah, c'est ça, une petite frette. On a dit, pour que, à l'avenir, si Molson avait allumé, il gagne des pains. Non, mais t'associes. Alors, on a fait la même chose pour Labatt, pour la Budweiser, mettons, en me disant, imaginons que ces gens-là, ils auraient dit, OK, qu'est-ce que c'est qu'une petite frette? C'est une Bud. Fait que tu rentres au bar, hey, demandons deux petites frettes, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? C'est deux Bud ou deux Molson Dry. On a envoyé ça aux deux compagnies.
Ah ouais?
Zéro pin bar.
Zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas passé par une maison de publicité qui, tu sais, on sait comment ça marche. Il faut que ça vienne d'eux. Puis si jamais les compagnies ont demandé à leur maison de publicité, qu'en pensez-vous? C'est ceux qui ont dû dire, ah non, vous savez, le personnage de Tanyana. Non, pourquoi ça venait pas d'eux autres? Puis je me défoule en disant ça parce que c'est con, absurde. Ouais. Alors que si quelqu'un en publicité avait eu cette idée-là et nous avait rejoint, ben aujourd'hui, tout le monde saurait qu'une petite frette, c'est tel produit. Mais comme ça ne venait pas d'eux autres, puis on dit, ben ça va coûter trop cher parce que ces deux acteurs connus, ils vont nous charger une fortune. Donc, nous les publicistes, on va faire moins d'argent.
Ben, on lance l'invitation à toutes les micro-brasseries. Ben, c'est ça, les grosses brasseries, ils ont manqué leur bateau.
Ben, ils sont dans le
champ. À la limite, t'as Boréal, ils embarqueraient all-in, mettons, dans quelque chose du genre, une micro-brasserie au lac Saint-Jean, il y en a tellement, tu sais.
Ben, imagine Gilda puis moi, même affaire que ça.
On ramène des persos.
On ramène des personnages. Puis là, maintenant, la petite frette, c'est ça. Alors, l'appel est lancé. Ça va coûter cher.
Master, ça va coûter cher.
Master, oui.
Dans le temps, ça ne coûtait pas cher.
Ça vient qu'à le dire avant.
C'est ça.
Bière de micro, c'est-tu quelque chose qui est dans dans ta palette? La bière de microbrasserie?
Oui et non. C'est-à-dire que j'admire le travail. T'sais, mon chum, Jeff Boudreau, il est porte-parole de la Beamer, la gang à Robertval, tout ça. Là. Et ils font... moi, je connais rien dans ma bière. T'sais, moi, je bois de la bière commerciale depuis que j'ai 17 ans. Fait que quand on fait goûter une bière de microbrasserie, le problème, c'est que je reconnais pas la bière plate que je bois.
Ouais.
C'est une bière qui goûte rien, dans le fond. C'est vrai, moi, la bière que je bois, c'est comme ça, c'est comme de l'eau, dans le fond. C'est de l'eau alcoolisée. Alors, je cherche toujours mon goût, tu sais. C'est comme, mettons, quelqu'un qui aurait bu du Pepsi toute sa vie, qu'on lui proposerait un genre de Pepsi qui goûterait différemment. Mm-hmm. Je dirais, ouais, c'est intéressant, mais je peux-tu boire un Pepsi, tu sais. Alors, il y a des lagers, puis des je sais pas quoi, là.
Ben, c'est pas mal la lager qui est la bière...
qui ressemble le plus à... Ben, je cherche toujours la Beamer, je vais avouer, là. Je pense que c'est celle-là qui porte le nom. Robertval.
Robertval, OK.
Mais celle qui est la lager, mettons, elle, froide, je vais oublier ma bière que je bois tous les jours, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que je me ferais... Alors, si une microbrasserie me disait, Michel, on sait, une bière facile à boire, là. Tu sais, les bières brunes, tu sais, mes fils, eux autres, ma mère, ils étaient dans le sirop, là. Ils faisaient toutes les affaires.
C'est quoi, vrai,
c'est quoi, moi? Donne-moi une cuillère, m'en bois. C'est correct, tu sais. Mais tant mieux si les jeunes développent d'autres goûts que le commerce les offre. Tant mieux, parce que c'est tout un exercice que de faire des bières. Mm-hmm. Mais moi, le vieux bonhomme, tu sais... C'est dur.
Surtout les IPA, puis très, très houblonnés, d'un goût très, très intense. Hey,
ça n'a jamais passé avec mon père, ça. Il n'est jamais trop fort.
Il y a une génération qui, je pense, qui vont avoir de la misère. T'sais. De toute façon, on va mourir bientôt. Vous boirez de la
sûreté. Sans impunité.
Comme tu dis, c'est un goût qui se développe. Là. Moi aussi, au début, je trouvais ça très fort, ces bières-là. Puis les IPA, je n'ai pas trippé au premier essai, mais c'est clair. Aujourd'hui, quand je reprends une Bud Light ou une Coors Light, c'est pire.
Ben, je pense qu'on peut pas se mentir que la première bière, c'est jamais la meilleure. La première cigarette, c'est jamais la meilleure. Toutes les affaires de, on va dire, consommation, je pense pas que la première fois, c'est la fois qui fait dire « Hmm, je vais prendre ça toute ma vie. »
Première fois que tu fais l'amour.
Ouais, mais la même affaire.
Si tu suffis là-dessus, le reste de ta vie sexuelle, t'as le mot.
Parce que moi, je vais arrêter tout ça, là.
Mais en même temps, si on change, c'est, je me souviens dans le temps quand j'étais ado, je passais de Laurentide. En fait, il y avait des modes.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire,
ouais,
quand Plume chantait la Black Label à Jonquière, dans Jonquière, ah ben là, on a vendu, ben pas moi, mais ils en ont vendu de la Black Label parce que c'était presque obligatoire. T'sais, je me souviens, il y a une période, tu buvais autre chose que de la Black, là. Tes chums faisaient, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas pris une Black? Là, tu te mettais à la Black, puis finalement, tu finissais par l'aimer. Mais la première Black, j'ai bu. C'est quoi ça? C'est après ça, j'ai bu. Puis il y a des bières aussi que ton corps accepte mal, tu sais, qui ont des réactions qu'on connaît, qui sont pas celles qu'on veut avoir tout le temps. Mais il y a aussi une autre affaire, c'est que il y a des jeunes qui boivent, mais si, comme on boit un bon vin, ils vont déguster, ils vont apprécier.
Ouais.
Mais des gars de ma génération, je le dis, puis... En tout cas, je le dis. En tout cas, mettons, je prends ma référence, mes chums. On buvait pour boire aussi, tu sais.
Ouais.
On buvait pour devenir un peu gorlot.
Ouais, avoir l'effet de la
bière. Ben oui, on buvait pas pour dire, oh...
ça goûte le raisin.
C'est... Non. Amène-moi ça un autre, dans le fond.
Inflate.
Ouais, ouais, c'est plus la température. De... Amène-moi une frette ou une moins frette.
Ça reste aussi, nous autres, quand on en vire une, on prend pas, de la Black. Ou,
ben, on prend la moins chère.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis même... J'ai dit la Black, mais la Black, ça revient auprès des jeunes. Là. C'est là, tu parlais des modes.
Ben, Black jeunes, Label, la Bat 50, la puis la Pabst Blue Blue Ribbon, puis la Laurentide, là, c'est pas mal ça.
La Laurentide, ça existe encore, ça?
Oui, c'est revenu.
Ça.
C'est revenu.
Au Québec, oui. Parce que...
On a commencé, nous, il y a 40 ans, ben, nous, moi, ma gang, avec la Laurentide.
Okay. Ben, c'est la même que la Molson canadienne, la Laurentide, dans le fond.
Ben, c'est ça, c'est juste
que Québec qui change le branding, parce que c'est plus un symbole national.
La seule que je pas capable de boire dans les commerciales, c'est la 50, la base 50. La seule que je trouvais un goût différent.
Parce qu'il est houblonné, oui.
Ah oui? Ouais, c'est ça que tu bois, quoi?
Ouais, ben oui, moi, c'est dans les bières commerciales, c'est que c'est elle qui ressemble le plus à l'IPA.
Ouais.
Fait que moi,
c'est quoi,
c'est
IPA?
C'est une bière
Indian
forte.
Indian Pale Ale.
Ah, OK.
Indian Pale Ale.
C'est une bière forte, puis c'est ça, c'est vraiment le goût du houblon qui est relevé dans celle-là. Fait que la base 50, ça est proche. Fait que c'est probablement ça que t'aimes pas. Okay. C'est la grosse, le gros goût houblonné qui goûte pas l'eau. Qui va goûter plus la moufette un peu ou des.
Bon,
le sapinage.
Justement, la moufette. C'est ça que j'aime pas.
Ben ça, c'est quand tu prends une bonne Heineken qui a passé une coupe d'heure au soleil.
Citron pas citron, là. J'ai compris parce qu'il se plantait des limes et des citrons pour tuer le goût de ce qu'il y avait en dessous.
Est-ce que la télé, c'est fini? Ou...
Ben, la télé, je l'ai fait. Là, d'origine, je l'ai fait beaucoup. Parce que si on parle de, mettons, kilomètre-heure qui a duré pendant 8 ans, après, j'ai fait le fou avec France Castel pendant un autre 8 ans à Radio du Midi, là,
à
Radio Cannes. Après ça, ben, tu sais, il y a eu des émissions qui sont passées, comme Viens-tu faire un tour? Ça a duré ça aussi 6-7 ans au moins. Tu sais,
ça, c'était bon.
Dimanche soir.
Je dois l'avouer, j'écoutais ça. J'ai vraiment aimé ça.
Beaucoup de monde m'ont parlé de ça. Puis ce qu'ils aimaient aussi, c'est qu'ils ont découvert que j'étais capable de fermer ma gueule. Parce que, tu sais, les gens, on savait pas que tu étais capable d'écouter l'autre. Parce que moi, je m'intéressais à je vivais par procuration la nostalgie de l'autre. Rentrer, j'étais aussi ému qu'eux autres quand on rentrait dans leur chambre d'enfance. Ou, parce que moi, je suis un nostalgique de première. C'est que je me servais de cette émission-là. Alors, j'ai fait quand même beaucoup de télévision. Puis même en dehors de l'animation, tu sais, l'air de rien, il y a eu Paparazzi, Un homme mort, 10-07, Gentleman, dans lequel j'ai joué des rôles souvent de policiers dans des séries comme ça. Après ça, il y a eu des films. Fait que j'étais présent sur bien des plateformes. Puis après ça, j'ai réussi à faire 15 ans de radio. J'ai fait 13 ans à C'est quoi? Un an à CKMF, chez l'ennemi, dans le fond. Et ensuite, j'ai été un an à 98.5. L'émission s'appelait Montréal Barrette. C'est devenu Montréal maintenant avec...
Paul Arquin?
Non, avec Paul Oud.
Paul Oud, oui, OK.
Et après ça, Paul s'y retrouve à la fin de semaine et c'est Patrick Lagacé qui a pris le créneau de cette heure-là. Parce que je suis parti parce que je ne suis pas un journaliste. Puis à la limite, je ne suis même pas un animateur de radio, même si j'en ai fait pendant 15 ans. Parce que ces gens-là, c'est des gens près de l'actualité, des gens qui ont le journaliste dans l'âme, qui sont carrément journalistes comme au départ, qui font de la radio. Alors que moi, c'était plus de la radio. Moi, je jamais parlé de le monde. Puis des fois, je trouvais le sujet 15 secondes avant. Tu sais, Éric Nolin était mon technicien, là. Puis il co-animait avec moi quelque part parce qu'on se parlait tout le temps. Je parle de c'est quoi. Puis même aussi à 98.5, c'était ça aussi. J'ai même co-animé avec ma fille, Marie-Lise Bourque, pendant plusieurs mois. Ça. Et des fois, j'arrive en studio comme à la dernière minute, là, puis on parle de quoi? Je sais pas, comme un journal. qu'est-ce que vous pensez de... Alors, hey, moi, là, j'ai remarqué une affaire. Qu'est-ce que vous pensez? Hey, moi, Michel. Moi, là, mon voisin, c'est un esmalade. Alors, fait que c'est ça que j'aimais, de donner la parole aux gens, mm-hmm. de raconter des anecdotes personnelles face au sujet. Mm-hmm. Puis c'est le genre de radio que j'aimais faire, mais c'est je comprends très bien quand je suis parti, parce qu'on... Je pense qu'on m'a expliqué qu'il fallait que je parte. que c'était pas dans le créneau. Oui, mais c'était pas dans leur créneau. J'écoute, j'écoute leur radio puis je comprends très bien que ça fitait pas avec moi. Uh-huh. C'est j'écoute, mettons, quand je prends mon chum Philippe Bond avec Pierre Pagé, ben lui, à la radio d'énergie, je pense.
Oui, c'est Énergie. Mm-hmm.
L'énergie, l'énergie, hein? Mm-hmm.
D'ailleurs, je participe à ça là, tous les vendredis, un petit topo là, où je raconte une anecdote.
Oui, j'ai entendu.
Puis, ouais, et ils font un peu le genre de radio que moi, je faisais. Okay. Et si je refaisais de la radio, ça serait ça. Je suis pas un gars pour faire des affaires publiques puis des grands sujets. Non, parce que moi, j'aime pas parler de ce que je connais pas. Tu sais, je suis pas de ceux qui veulent Je suis pas de ceux qui veulent prendre position à tout prix. Tu sais, des fois, je peux avoir une opinion, faire quelque chose, je peux réagir, mais entre réagir moi seul dans mon salon... Et en parler dans un micro, je vais me garder une petite gêne. Tu sais. C'est-à-dire que tu connais pas ça. Là,
c'est le contraire d'un influenceur. Dans...
Ben, exactement. Ou de ceux qui font... Il y en a très peu, parce qu'on les habituellement, on les envoie, mais qui veulent avoir une opinion à tout prix. Là, mm-hmm. Tu sais, puis qui veulent monter aux barricades pour n'importe quoi. Mm. Non.
Puis c'était pas quelque chose que tu trouvais contraignant? Le milieu de la radio, c'est quand même des... C'est short. C'est
non, rapide. Mais il était cool avec moi. C'est-à-dire que... ben c'est drôle parce que Éric Nolin me contrôlait, puis c'est lui qui a été pendant toutes ces années-là mon directeur technique. Là. Uh-huh. Toutes les années de c'est quoi, en tout cas. Puis lui, quand c'était le temps d'aller à la pause, il allait à la pause. Hey, t'as un peu, j'ai pas fini. Puis il partait à la pause. À un moment donné, il m'était poigné avec. J'ai dit, écoute, juste pas mon passé de toi. Puis comme ça, moi, être capable de parler de ce que je veux. Il dit, pas de problème. Il part, il quitte le studio. Là, ça cogne, puis il fait signe. Faut que tu mettes une toune. Faut que tu partes le commercial. Hey, j'avais aucune idée comment ça marchait. Fait qu'après 10 minutes de les supplier, reviens, Éric, je m'excuse. Viens mettre la toune. Viens passer à la publicité. Je veux avoir ma paye, moi, tu sais.
J'ai compris que. 15 non,
mais. Mais, tu sais, il me faisait pas sentir. Que j'étais bloqué. Tu sais, on me laissait parler. Hey, je faisais les vendredis sexés. Ah, c'est quoi? Tenez-vous bien. Ah, ouais. Tous les vendredis midi, j'ai dit, on va parler de sexe. Fait que là, j'ouvrais les lignes, puis les gens partageaient. M'as-tu répété ça? Oui, moi, le répéter. Moi, je vais faire attention quand même. Un midi, je dis, écoutez, mettons, le sujet, c'était, je sais pas, la masturbation, OK? Fait que là, les gens disaient, ben moi, quand j'étais jeune, n'importe quoi, on parlait de ça, tu sais, en adulte. Y a pas, ouais. Même si c'était un sujet olé-olé, on en parlait quand même en adulte. Ce midi-là, genre, et je dis, ce midi, personne ne va appeler. Parce que si vous appelez, c'est que vous êtes en train de faire l'amour. Vous ne m'appelez pas si vous n'êtes pas en train de faire l'amour. Ça a pris 5 secondes. Bric, les lignes sont rentrées. Et là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Je suis 140 au volant de mon truck. Ma blonde est à côté de moi dans le camion. Puis là, elle décide de me faire un petit cadeau. Puis là, elle m'a donné... Il passait le téléphone à sa blonde. Puis là, elle ne pouvait pas tout de suite. Elle me parlait. Et là, le monde ont baisé jusqu'à ce que... Le directeur des programmes en dessous, j'ai barré à la porte. J'ai dit, hey, ma soeur, à un moment donné, après l'émission, elle m'appelle, elle dit, t'es un fou, quoi. Elle dit, écoute, elle dit, ton émission, ça avait tellement pas de bon sens, puis on savait que c'était vrai. C'est genre deux filles qui travaillaient ensemble dans un bureau et qui sont restées sur l'heure du midi pour manger leur lunch, alors que tout le reste du bureau est allé au restaurant. Puis elle dit, écoute, elle dit, tu nous as tellement allumés que ça faisait longtemps qu'on se regardait, moi, puis elle. Puis là, elle a dit, on est là, là. Puis on se l'est dit. Bien, au moment où on se parle, ils sont mieux de pas venir au bureau parce qu'on est tout nus dans le... On a décidé ce midi-là de baiser dans le bureau, sur la table, de je sais pas quoi. Parce que c'était juste de ça. As-tu l'idée que tout le monde s'est écouté ça? Tout le monde s'en est mal en parler. Alors, ma soeur m'appelle après le show, elle me dit, Michel, je rentre dans un dépanneur. Tu sais, je fais le plein, je rentre en dedans pour payer, puis... Le gars, il dit à ma soeur, sans savoir que c'est ma soeur, « T'as-tu entendu le fou à Barrette? » Elle dit « Quoi? » Elle dit « Écoute ça. » Il monte la radio dans le dépanneur. Puis là, en m'entendant parler de sexe, elle dit « Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font là. » Et elle sort dehors. Puis quand elle est sortie, il y avait un gars qui avait stationné son semi-remorque. Et je pense que mon émission l'excitait beaucoup.
Oh,
parce qu'elle a pris une petite pause whoop-a-live. Je dis, c'est pas vrai. Elle dit oui. Elle dit, tu vois.
Il faudrait voir les stats de naissance parce qu'il y a peut-être un bébé boom qui est parti de ça.
Ben, oui, peut-être. Mais à un moment donné, ce midi-là, je pense qu'on a dépassé les bornes. Ce qui fait que les patrons ont fini, ils ont quasiment voulu défoncer la porte. Et je me suis retrouvé au bureau des patrons pour me dire, hey, attends un petit peu, là. Le CRTC est embarqué là-dedans.
Ah ouais,
c'est quoi, failli perdre sa licence?
Ah ouais.
Heureusement, au moment où le CRTC a bougé puis qu'ils ont voulu avoir les bandes, tu sais, il y avait une durée. Tu étais obligé de garder, mettons, les bandes enregistrées pendant, je dirais, quoi, 30 jours. Et au moment où tout ça s'est brassé, les bandes avaient été effacées, genre, la veille. Fait que comme il avait pas réécouté, il pouvait pas juger d'eux, sinon il y aurait eu un grave problème à cause de moi.
Ah ouais, mon Dieu!
Ça clenche le flash tes lumières à Jean-Marc, ça?
Ouais, mais c'était différent. Pour...
Ouais, mais c'est ça, avec le podcast, il n'y aurait pas ça. Il y aurait pas ces
ouais,
normes-là.
Ça, tu pourrais faire, tu n'aurais pas de limite comme ça.
Ah non, ça fait pas de bon sens. On fait... Écoute, Normand Brathwaite avait fait venir une danseuse, pas une danseuse, mais une actrice porno, un studio, elle est arrivée flambant. Il s'est passé des choses en radio, là, qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire.
Eh non.
Vraiment.
Oh, puis même
hey,
ça...
on va vous en garder une histoire de radio. On parle de ça il y a plus de 20 ans, là, tu sais. Et il y avait eu un événement où quelqu'un était rentré dans la station de radio, c'est quoi, pour venir essayer de planter l'animateur en ombre parce qu'il n'était pas d'accord, je sais pas quoi. Ça avait toute une histoire. Puis à partir de ce moment-là, il y avait la sécurité. Bon. Puis le bureau, pas le bureau, mais la porte du studio était fermée tout le temps. Puis il y avait juste l'animateur qui fait d'ouvrir. Bon. Un jour, il y a quelqu'un qui travaillait aux ventes ou je sais pas quoi, c'est quoi, qui me dit, écoute, il y a un gars, tout le monde est nerveux. Il y a un gars dans le corridor, il a de l'air louche, puis j'aime pas ça. Je dis, OK, je vais y aller. Je vais voir le gars, tu sais, puis tu sais, je veux pas tomber dans le profilage, mais tu sais, le gars, il avait les cheveux longs, il avait l'air d'un gars de la rue, tu sais, un peu la barbe. Et, j'ai dit, écoute, je peux-tu t'aider? Non, j'attends le patron. Ben, j'ai dit, écoute, tu serais obligé de l'attendre dehors, parce que là, j'ai dit, je pense pas que le patron attend personne, sinon on t'aurait déjà reçu. Non, non, j'attends le patron. Non, non. Puis moi, là, il est un peu bourru, puis il s'en va comme ça, tu sais. Puis je me dis, tiens, OK, je vais le sortir parce que je veux pas que ça dégénère. Je vois déjà le banc de neige en face de la station. Je lui dis, s'il se débat, moi, il va se retrouver dans le banc de neige. Puis je le prends par le bras, puis je commence à avancer avec lui. Puis il résiste un peu. Puis non, 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 on va voir là-bas. Ça. Puis juste avant que je décide d'ouvrir la porte et de le soigner dehors, j'ai dit, tu viens voir qui au juste? Et là, il me nomme le nom du patron, le vrai patron. Là, j'ai eu un doute. J'ai dit, écoute, regarde ce qu'on va faire. Reste là, je vais aller voir le patron. Si effectivement, il t'attend, ben, ça me fait plaisir de t'amener au patron. J'ai dit, c'est quoi ton nom? Et, bon, tu as dit, moi, oublié le nom. J'ai un grave problème dans la vie, j'ai pas de mémoire des noms. Album de reprise.
Sylvain Cossette.
Sylvain Cossette. C'était Sylvain Cossette. Je voulais lancer Sylvain Cossette dans le banc de neige. Alors, rappelez-vous de Sylvain Cossette à l'époque avec la barbe et les cheveux longs, c'est l'hiver, il y a son côte d'hiver. J'ai jamais reconnu Sylvain Cossette. J'ai dit, Sylvain Cossette. Arrête. Tu sais que je voulais être colissé dans le banc de neige. Voyons, toi. Ben non, mais je disais, l'air d'un traîneux. On est tous ses nerfs, ça, là. Ben, ça aurait été chic aux nouvelles.
Ah, wow. Mais en même temps, c'est ça. Puis c'est parce que même le représentant des ventes, à ce moment, avait le même feeling aussi. Tu sais.
Ouais, tout le monde avait senti. Ben, c'est parce que après l'événement, donc, tout le monde était nerveux. Ça. Tu sais.
Quelqu'un de moyennement louche, après ça, tout le monde était ses nerfs.
Les années 2000 ont été dures pour Sylvain.
Ben, oui, effectivement.
Ah, wow, ça, c'est magique, ça.
Ouais, man. Sylvain qui avait ramassé dans le banc de neige.
Sylvain, mais vous contez une autre anecdote intéressante concernant Sylvain. Il y a quelques années, je dirais pas où, parce que je veux pas planter les gens. Je suis à quelque part. Et je reviens de mon spectacle, j'écoute la radio locale, et j'entends, c'est pas ici en passant, c'est pas en Abitibi, oui. J'entends l'animateur en ondes parce qu'il y avait un faux scandale, parce que la blonde de Sylvain avait pris des photos dans leur nouvelle Jaguar, mettons, puis avait dit, aujourd'hui on a reçu notre nouvelle voiture, puis il était bien content, nanana. Puis là, ça avait fait de l'autre monde dire, ouais, mais là, tu sais, ces gens-là, les artistes, puis ils ont de l'argent. Bon, toute une histoire de Sylvain. Ben, oui. Alors là, l'animateur de soirée, il embarque là-dedans, lui. Moi, quand on pense, il monte sur scène, une petite toune, puis on va être donc, ça roule en Jaguar, il commence à planter Sylvain. Je reviens d'abord. Je redescends au centre-ville. Je me présente dans les vitres de la station. Il est comme 11 heures le soir. Là. C'est l'animateur de fin de soirée. Je cogne dans les vitres. Il me regarde. Hein? Là, il regarde. Il comprend pas. Il pense. Il vient ouvrir. Il dit, on avait-tu une entrevue? Non, il n'en avait pas, mais on a une là. Là. Il dit, ouvre-moi le micro. Et là, j'ai commencé à lui expliquer le travail d'un artiste. Tu sais, j'ai dit, tu sais, quand tu commences, là, moi, toute la gang, tout le monde, un artiste, ça commence pauvre, puis des fois, ça va rester pauvre, puis des fois, ça se peut que ça marche pas. Que ce soit en théâtre, en musique. Tu sais, Céline, là, moi, je me souviens au Carrefour des Bois-Francs, il y a 40 ans, là, je suis là du midi, il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, au centre d'achat, il y avait un rond au milieu, là. Le lundi, c'était, mettons, de midi à midi et demi, Daniel Lemire, midi et demi à une heure, Pierre Verville. Le lendemain, midi à midi et demi, André-Philippe Gagnon. On était tous à nos débuts. Puis moi, c'est des débuts de mon personnage de IA. Il y a un petit paravent dans le coin là-bas. Là. Mais les gens, ils magasinent. Là. Ils passent dans le centre d'achat. Puis si ça le tente, ils arrêtent d'écouter le monologue de celui-là. Ah ouais. Puis moi, je suis là en attente, en arrière du paravent, habillé en IA Tremblay. Puis en avant de moi, il y a une chaise. Puis il y a une fille qui attend pour aller chanter de midi et demi à une heure. Puis la fille qui va chanter au centre d'achat, c'est Céline Dion.
Ouais, c'est ça.
Mais la petite fille qui est assise là, qui est bien sénère parce qu'elle va aller chanter devant du monde qui passe des paquets, mais c'est notre Céline nationale qui est à Vegas. Alors, tu commences quelque part, tu travailles fort, tant mieux si ça marche. Tu sais, je me rappelle, moi, au début de ma carrière, là, mes chums travaillaient à l'usine, il y avait des maisons, des chars, des 4x4. Puis moi, les premières années, je n'avais pas de maudite scène. Je venais ici dans les Abitibi faire des bars, puis j'en venais avec moins d'argent que j'étais parti parce que j'avais bu la moitié de ce que j'avais gagné. Puis l'autre moitié, je m'étais nourri, j'avais pris une chambre. Ouais, ouais. Mais j'aimais ce que je faisais. Le jour où ça se met à fonctionner, puis que tu fais des sous, ben tu les as pas volés, ces sous-là. Tu les as gagnés. Mm-hmm. Si moi, si j'ai le moyen de m'acheter une bébelle aujourd'hui, j'ai pas honte de l'acheter. J'ai travaillé fort. Puis le premier qui m'aurait dit, n'aie pas honte, c'est mon père. T'sais, il aurait dit, écoute, t'as travaillé fort. Ça a marché, tant mieux. Alors, Sylvain Gossette, c'est la même affaire. Si Sylvain Gossette avait le moyen de s'acheter une Jaguar, bravo à Sylvain Gossette. T'sais, puis on dirait pas ça de Céline. T'sais, j'ai vu cette semaine. Ils ont fait des nouvelles avec le fait que le René Charles s'est acheté un char de 300 000 piastres.
Ouais. Okay. Ouais. Ouais, pis... Il a donné un char, c'est ça, de 300 000 piastres.
400 000, puis sa mère, c'est Céline Dion. Il est capable.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, oui, puis
on dirait pas ça des businessmen, par exemple. T'sais, quelqu'un qui commence avec 0 $ ouais. Puis qu'il emprunte 10 000 piastres à la banque, puis là, et sa business...
Ben, Olivier Primo, il cache son char parce qu'il se fait écœurer parce qu'il y a une Porsche de parquet devant une épicerie, je sais pas trop. C'était son père qui faisait ça.
Ouais, c'est ça. Okay.
C'était son père qui faisait ça, qui cachait la Porsche dans le bas de son épicerie parce que sinon, le monde le traitait de snob. Pis de...
Non, ouais. Mais ça, c'est un problème qu'on a au Québec. Avec. Mais en même temps, gars, on admire les Américains, tu sais, le phénomène Trump, là. Ouais. Il y a plein de monde qui ont voté pourquoi? Pour lui, parce qu'il disait, c'est un homme d'affaires, il est milliardaire, fait que ça va relever l'économie. Lui, comment ça marche? Alors, cette pensée-là. Puis au Québec, on a de la difficulté avec les gens qui gagnent des sous. Mm-hmm. Si tu gagnes de l'argent, à moins que tu nous prouves comment vraiment, là, t'es un crosseur ou t'as fait quelque chose de travers, on a de la misère avec.
Ouais.
On, tu sais, né pour un petit pain, gna gna gna. Puis aussitôt que tu gagnes un peu plus que ton voisin, il se trouve une raison de t'haïr, tu sais. Mais à un moment donné, il faut que t'en viennes. Travaille fort, t'as gagné ton argent. Tu sais, moi, je vois des jeunes humoristes qui ont commencé, je les ai vus travailler, tatata. Puis quand je vois qu'aujourd'hui, ils réussissent, puis ils remplissent le salle, puis font des sous, bravo. Puis je te souhaite. Faire des sous, c'est une chose, bravo, mais ce que je te souhaite, c'est de durer. Moi, là, ma plus belle réalisation dans la vie, je pense, c'est d'avoir... Tu sais, l'année prochaine, ça va faire 40 ans. Mm. Puis quand j'arrêterai, je dirais au moins, j'en ai vu passer qui sont entrés, qui sont partis, pour toutes sortes de raisons. Ben moi, je pense que c'est de la durée. Tant mieux si les sous sont venus avec, mais ça, c'était pas le but premier. Moi, si j'avais voulu faire ce métier-là en me disant... Surtout quand j'ai commencé il y a 40 ans, là. Aujourd'hui, on peut y croire parce qu'on a vu des jeunes humoristes faire des sous. Mais il y a 40 ans, là, par exemple, Daniel Lemire, par exemple, André-Philippe Gagnon. Anecdote, André-Philippe Gagnon puis moi, on fait une tournée ensemble. Puis moi, ma blonde de l'époque et moi, on vient d'avoir un jeune garçon, Olivier, qui a aujourd'hui 36 ans, donc ça fait 36 ans de ça. Et on se quitte pour Noël, on a des shows, puis les prochains vont être après Noël. Fait que juste avant de se quitter d'un bar quelque part, là, où on allait faire notre gig à deux, là. Est-ce que Michel, heureuse fête, tatata, puis t'as-tu hâte de voir ton fils parce qu'on t'a tourné quelque part, mais tourner des bars à gagner à peu près rien. Ah oui, j'ai hâte. Il me dit, qu'est-ce que t'as acheté pour ta blonde puis ton fils à Noël? Puis là, il voit que je dis, ah ben là, je vais faire ça en arrivant, tu sais, magasiner ça. Ben, il dit, faut que tu dépêches parce que comme c'est dans deux jours, tu sais. Et là, il réalise que j'ai pas d'argent pour acheter de cadeaux, ni à mon fils. Ben lui, il s'en fout, il était bébé, mais à ma blonde. Je peux pas arriver rien pour Noël. Mm-hmm. Il m'a donné 1 000 $. André-Philippe Gagnon m'a donné 1 000 $. OK? J'y vais entrer, non, je peux pas. Oui, tiens, fais plaisir à ta gang. Joyeux ouais. Noël, mon chum. J'en ai parlé l'été passé, j'ai fait quelque chose à la Comédia avec lui, puis j'ai rappelé ça. Puis André-Philippe, qui est le gars le plus... Tu sais, en chanson, t'as eu Michel Louvain, puis en humour, t'as André-Philippe Gagnon. Le plus gentil, là, le vrai gentil, qui a pas de défaut, André-Philippe Gagnon. Ah non, mais dis Michel, tu m'as donné bien plus que... Tu t'as pas capable d'accepter. Non, non, l'humilité jusqu'aux oreilles. Alors, c'est pour vous dire que c'était comme ça. C'était comme ça. Puis quand André-Philippe Gagnon, je me souviendrai, on se souviendra qu'André-Philippe Gagnon puis moi, on commence en même temps, nanana. Puis à un moment donné, il s'en va faire We Are the World à Johnny Carson à l'époque. Tu vois? Ouais. Bon. Et du jour au lendemain, là, c'est une super vedette. Là, là, il remplit les arénas. Il a carrière à Vegas. Il est passé de on est super pauvre à l'argent est sur les oreilles.
Ouais.
Mais il est resté le même gars. Mm-hmm. Tout le temps. Quand je l'ai vu après, il n'y a jamais eu une once de... D'ailleurs, ce qu'il a fait, André, dans le temps, quand il est parti avec sa première tournée, parce que tout le monde voulait l'avoir, il a fallu que Stéphane Laporte se mette à écrire beaucoup, parce qu'on avait pas, il n'y avait pas assez de stock vraiment pour faire une vraie soirée, tu sais. C'est arrivé assez vite, mais ça, il prenait une première partie. Il a demandé à qui? À moi. Mm-hmm. Parce qu'on était chum. Alors, moi, ma première tournée que j'ai faite, là, c'est pas en moi, c'est même pas ma tournée, c'est la tournée en première partie d'André-Philippe Gagnon avec mon personnage de Yo Tremblay. Ce qui fait que quand je suis revenu, les gens, ah oui, c'est le gars qui faisait la première partie d'André-Philippe Gagnon. Fait que je lui dois beaucoup. Puis lui, ben, je le remercie pour son geste, oui, mais pour son humilité, pour ce qu'il a toujours été.
J'imagine qu'aujourd'hui, à cause de ça, il a le droit de faire n'importe quel, de choisir n'importe quel char, faire n'importe quel, faire un tour.
OK. <D'abord>.
Cette passion-là des voitures, d'ailleurs, ça continue, ça?
Oui, ça continue, mais je suis un peu plus calme qu'avant parce que j'ai déménagé en Beauce. Et quand je suis arrivé, parce que là où je vivais, j'étais propriétaire d'un hôtel à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Oui, c'est vrai.
Puis la pandémie a tué l'hôtel, en tout cas pour un certain temps, parce que c'était un hôtel d'événements, de noces, de rencontres.
Affaires très in en pandémie.
Ouais, c'est ça. C'était pas un Holiday Inn, du jour une chambre dans votre coucher, tu sais.
Ouais.
C'était vraiment, oui, il y avait des chambres, bien sûr, des suites et tout, mais c'était bon. Alors moi, j'ai quitté, j'ai laissé mes parts à mon partenaire. Mais moi, j'avais là-bas, je vivais d'abord à l'hôtel, nanana, puis j'avais un immense entrepôt avec mes voitures. Puis quand j'ai déménagé, comme je suis moins jeune, j'ai dit, on va prendre quelque chose de plus petit, tu sais, parce qu'on vivait carrément à l'hôtel, là, une maison de 400 pieds de long, tu sais. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, on a acheté une maison avec un garage intéressant, mais pas assez gros à mon goût. Fait que j'ai vendu plusieurs voitures. J'ai réduit. Puis en réduisant, je me suis aperçu que c'était bien parce que comme ça, je fais utiliser les voitures que je gardais. Parce que quand t'en as 22, ouais. Prends 22 voitures, là.
Choisir.
Rajoute les motos avec ça, là. Marche. Hey, gars, moi, des fois, je fais ça. Je marche sur la rue. Mettons une voiture stationnée. Je commence à compter. 1, 2, 3. Là, rendu 22 coins de rue plus loin, là, je me tourne d'abord et je regarde les 22 voitures. Là, je fais « Hey, j'avais ça dans mon garage. » Des fois, il n'y a même pas ça dans les cours de concessionnaire.
Ouais,
c'est un peu malade. Que, en finissant avec une... la moitié, mettons. Okay. On va finir avec 10-12.
Mais en étant un maniaque de char de même, j'imagine que tu conduis toi-même pour faire les tournées. Pis tout ça.
Oh oui, j'ai une vieille van, une vieille Chevy van 1987 qui a 35 ans l'année prochaine.
Ah ouais.
Parce que dans mes trips de flow, j'ai eu beaucoup de Westphalia puis de vieilles vannes comme ça que je transformais. Puis je suis parti sur un trip. Avec... La vraie histoire, c'est que mon fils, Martin, il m'a imité beaucoup. Tu sais, on influence toujours nos enfants pour le bien ou pour le moins bien, mais ah oui, là, ils vont-tu vouloir faire rentrer les gens, là, non?
Pas tout de suite.
On a encore 5 minutes.
OK, parfait. Merci pour réduire ça en 5 minutes. Fait que lui, un jour, il écoutait mes histoires de Californie puis de road trip. Hein. Il dit, père, je veux avoir une van, une vieille van. OK, moi, t'en trouver une. J'en trouvé une à Granby. Magnifique. 1978, c'est la même affaire, ça n'a jamais changé. Fait que, il achète la van, il va faire la route 66 avec sa blonde de l'époque, il revient puis il capote. Mais moi, je la trouve tellement belle que je veux l'acheter. J'ai dit, Martin, vends-moi ta van. Mais non, je peux pas, c'est ma van. Vends-moi là. Non, parce que c'est ma van. J'ai fait la route 66, c'est ma van. C'est mes affaires à décorer à mon goût. Fait qu'il dit, moi, t'en trouver une. Je dis, ben oui, c'est sûr qu'ils vont en trouver. Il m'en a trouvé une, celle que j'ai.
Ouais.
Et je suis tombé en amour avec. Puis avant de partir pour l'Abitibi, j'ai fait garde. Au lieu de prendre la route comme un job, j'aime ça faire ce que je vais faire tantôt, monter sur scène. Mais au lieu de dire, oui, mais il faut quand même que je roule beaucoup, non. fait, c'est un road trip que tu fais. Mm-hmm. Fait que je me suis assis dans ma van, je suis bien installé, j'écoute ma musique, j'ai un lit en arrière, j'ai une toilette, j'ai mes enfants, ça sent le patchouli, puis je trippe, les cheveux me poussent, puis ça va bien.
Cool. Mais il n'y avait pas un numéro d'ailleurs de toi et ton fils en road trip aux États-Unis? Il me semble que j'avais entendu ça. Demande.
Oui, numéro en motorisé avec mes deux de mes quatre garçons, avec un motorisé de 40 pieds de long qui s'est devenu un voyage d'enfer.
Ouais, c'est ça. Oui.
Voyage. Un jour, il y a eu le film de Robin Williams.
VR.
Ah, les fils, ils ont dit, paye, t'ont volé ta joke. Quelle joke? Ben, elle dit qu'on a vécu, là. Non, ils m'ont pas volé ce qu'on a vécu. Ils ont juste. Ça doit être une affaire qui arrive souvent. Mais là, je le dirai pas, ça n'a pas de maudit bon sens, mais c'est le célèbre moment où j'ai voulu vider la fosse.
La fosse sceptique.
Ben, le réservoir de vous savez quoi.
Ouais.
Dans le. Ben, je vais vous le dire. C'est sur un camping, t'as un trou, t'as des bouchons, tu dévisses.
Ouais.
Là, tu prends ton tuyau, tu mets ça là-dedans, tu tires, t'as 50 gallons de vous savez quoi qui rentrent dans le système de
fosse sceptique
du camping. Place, ouais. Cette fois-là, j'étais à genoux, j'ai le bouchon défait devant moi, puis là, en face de moi, il y a un Américain qui tente de faire la même affaire. Mais je m'aperçois que mon tuyau, il rentre pas. Puis l'Américain dit, you need an adapter, j'ai pas le bon format. Ah, ben, je dis, OK, je n'arrêterai un prochain camping. Fait que je prends mon tuyau, je le pousse dans le panneau, mais je ne revisse pas tout de suite mon affaire. Mais lui, il flush son 50 gallons, mais il est sur la même ligne que moi à 10 pieds. Fait que tout ce qui est rentré là est ressorti avec pression. Ça a monté haut comme il sait, puis c'est redescendu sur moi. Fait que t'imagines, il m'a dit, j'en ai 3 pouces d'épais partout. L'Américain me crie, I'm sorry, je réponds, I'm plein de marque. Alors, et quand on est revenu du voyage, on vient du voyage, Gildor faisait une émission à TV qui s'appelait L'île de Gildor, une espèce de sucré salé.
Oui.
Il dit, Michel, j'ai entendu que tu venais de Californie, viens m'en parler. Puis OK, j'arrive à la TV en direct, je suis dans du midi. Et là, il y a mon fils qui est là, Nicolas, qui a, il a 10 ans. Et Gildor se tourne vers mon fils et dit, toi, ton événement le plus marquant du voyage, il savait rien, Gildor. Il dit, c'est quoi? Là, je voyais mon fils, quand il allait mentir ou dire une niaiserie, Jonathan, il faisait ça. Moi, Jonathan, Nicolas faisait ça, avec sa bouche. Je dis, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, dis-moi, mon moment marquant, c'est quand papa a chié un sécudote. Parce qu'il y avait eu ça aussi avant. Tu comprends?
Merci beaucoup, Michel Barrette, d'avoir été
bien,
si généreux.
Ouais,
c'est ça. On n'a pas le choix de finir là-dessus. C'est trop hot, je pense. Mais bon spectacle ce soir. Merci beaucoup d'avoir été aussi généreux avec nous autres.
Ah, c'est gentil. Merci.
Puis,
à vous.
Ça va nous aider beaucoup. Puis, mais merci, Pierre-Marc.
Merci, Mathieu.
Merci, Benoît.
À cause de vous autres, là, je pense que je vais compter ça.
À soir dans le show.
Parfait.
L'histoire du motorisé.
J'aime ça. J'aime ça.
On va compter ça tantôt.
C'est bon. C'est bon. Plus, là, je pense que c'est sold out, mais est-ce que c'est pas sold out, va me prendre une place.
Ouais, c'est ça.
Merci à vous.
Merci, là.
Merci beaucoup.
Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez.
Vous nous donnez aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado diffusion, des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion.
Merci beaucoup.
Merci.